Nous sommes le jeudi 14 mai. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Kim Mong-jo et Anne de Flau.
À la une aujourd'hui, l'ouverture des inscriptions pour les élections locales et les législatives partielles du 3 juin. Nous évoquerons également les échanges diplomatiques de Séoul avec Washington et Pékin à l'occasion du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping organisé aujourd'hui dans la capitale chinoise. Et puis en fin de journal, la Corée du Sud réforme pour la première fois depuis 10 ans ses critères de don du sang afin de moderniser la gestion de ses réserves sanguines.
Ouvrons ce journal avec le lancement officiel du processus électoral pour les élections locales et les législatives partielles prévues le 3 juin en Corée du Sud.
Les inscriptions des candidats se sont ouvertes ce jeudi pour une durée de 2 jours. Il s'agit des premiers scrutins nationaux organisés depuis l'arrivée au pouvoir du président Lee Jae-myung il y a un an. Les partis politiques, au pouvoir comme dans l'opposition, entrent désormais pleinement en campagne. Le Minju appelle notamment à sanctionner les administrations locales élues sous l'ancien président destitué Yoon Suk-yeol.
La majorité présidentielle espère aussi renforcer son implantation locale.
Après avoir consolidé son pouvoir à l'exécutif et au Parlement, le camp présidentiel souhaite désormais étendre son influence au niveau des collectivités territoriales. De son côté, le parti du pouvoir du peuple, le PPP, désormais dans l'opposition, appelle les électeurs à limiter le pouvoir du président et de son mouvement après la crise politique provoquée par la loi martiale de décembre 2024 et la destitution de Yoon Suk-yeol. Les législatives partielles représentent également un enjeu important. Les électeurs devront choisir de nouveaux députés dans 14 circonscriptions à travers le pays. Dans certaines d'entre elles, plusieurs personnalités considérées comme de potentiels candidats à la présidence de 2030 sont en lice.
Sur le front diplomatique et sécuritaire, Séoul soupçonne désormais fortement l'Iran d'être derrière l'attaque contre le navire Namu dans le détroit d'Ormuz.
La Corée du Sud estime désormais qu'il est très probable que l'Iran soit à l'origine de l'attaque survenue le 4 mai contre le navire de HMM et concentre actuellement ses efforts sur la collecte de preuves. Un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui que l'hypothèse d'une attaque menée par un autre acteur restait théoriquement possible, mais peu probable, notamment en raison de l'absence de pirates dans cette zone maritime.
Séoul poursuit également ses échanges avec Washington.
Et le responsable a précisé que la Corée du Sud coopérait étroitement avec les États-Unis depuis le début de l'enquête et procédait à une analyse conjointe des informations détenues par les autorités américaines. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Cho-yeon a déclaré ce matin que les attaques contre des navires civils dans le détroit d'Ormuz, y compris celles visant le Namu, ne pouvaient être ni justifiées ni tolérées. Il a ajouté que le gouvernement mènerait des investigations supplémentaires avant de décider d'éventuelles mesures.
Une équipe d'analyse technique a également été envoyée à Dubaï.
Le ministère de la Défense a annoncé hier soir le déploiement d'experts chargés d'examiner scientifiquement les causes de l'attaque et d'appuyer les travaux de la cellule gouvernementale conjointe de réponse à la crise.
Lee Jae-myung a reçu hier à Séoul de hauts responsables américains et chinois à la veille du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping organisé aujourd'hui à Pékin.
Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'est entretenu séparément avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois Yi Li-feng, tous deux en visite éclair dans la capitale sud-coréenne. Ces déplacements visaient notamment à préparer le terrain avant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.
Lors de son entretien avec le responsable américain, Lee Jae-myung a proposé un accord de swap de devises.
Le chef de l'État sud-coréen souhaite ainsi renforcer la coopération bilatérale sur les marchés de change entre le won et le dollar américain. Cette proposition intervient alors que la Corée du Sud doit investir à terme 350 milliards de dollars aux États-Unis dans le cadre de l'accord commercial conclu l'an dernier entre les deux pays.
Toujours dans le chapitre économique, Fitch Ratings estime que la Corée du Sud conserve une certaine marge de manœuvre budgétaire malgré les tensions au Moyen-Orient.
Dans un entretien accordé hier à Reuters à Séoul, Chakarika Chandra, directrice chargée des notations souveraines pour l'Asie-Pacifique chez Fitch Ratings, a expliqué que le dynamisme du secteur sud-coréen de l'intelligence artificielle contribuait à renforcer la résilience économique du pays. Selon elle, les avantages compétitifs de la Corée du Sud dans l'IA devraient perdurer, ce qui permettrait au gouvernement de soutenir davantage l'économie si nécessaire.
Fitch ne considère donc pas un éventuel soutien budgétaire comme excessif dans le contexte actuel.
L'agence estime qu'une hausse des dépenses publiques afin de soutenir la demande ne constituerait pas forcément une erreur de politique économique. Chakarika Chandra a également souligné que le développement de l'IA pourrait améliorer le potentiel de croissance du pays et atténuer les inquiétudes liées à l'endettement. Fitch prévoit ainsi une stabilisation de la dette publique sud-coréenne autour de 50% du PIB à moyen terme, un niveau jugé légèrement inférieur à la médiane des pays notés dans la catégorie AA. L'agence maintient d'ailleurs la note souveraine de la Corée du Sud à un AA- depuis 2012.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Le nombre de divorces continue de reculer en Corée du Sud, mais une autre tendance progresse fortement, celle des divorces chez les seniors.
Selon les données publiées ce matin par le COSIS, 88 130 divorces ont été enregistrés l'an dernier, soit plus de 3 000 de moins qu'en 2024. Il s'agit du niveau le plus bas observé depuis 1996. Le ministère des Données et des Statistiques explique notamment cette baisse par le recul du nombre de mariages liés à la diminution de la population, ainsi qu'aux effets du Covid-19 avec un certain décalage dans le temps.
En revanche, les divorces gris atteignent un niveau record.
Les séparations concernant des personnes âgées de plus de 60 ans ont totalisé 13 743 cas en 2025, soit près d'un millier de plus qu'un an auparavant. Cette catégorie représente désormais 15,6% de l'ensemble des divorces, un niveau inédit depuis le début des statistiques en 1990. Selon les autorités, cette hausse s'explique par plusieurs facteurs, notamment le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi le renforcement de l'indépendance économique des femmes et l'évolution des mentalités dans la société sud-coréenne.
Autre évolution observée dans la société sud-coréenne, le montant des enveloppes offertes lors des mariages continue d'augmenter.
Selon un rapport publié ce matin par Nonyeob Bank, les invités ont offert en moyenne 117 000 won, soit environ 67 euros lors des mariages en 2025. Le montant moyen était de 110 000 won en 2023, puis de 114 000 won en 2024, soit une hausse de près de 7% en deux ans. Les enveloppes de 50 000 won restent les plus fréquentes avec 42,3% du total, devant celles de 100 000 won qui représentent près de 40%.
Les dons de montants élevés sont eux aussi en progression.
La part des enveloppes supérieures à 1 million de won continue d'augmenter, tout comme celle des dons dépassant les 10 millions de won. En 2024, le nombre de virements liés à un mariage d'un montant supérieur à 100 millions de won a même été multiplié par 14 sur un an. Selon la banque sud-coréenne, cette hausse s'explique notamment par l'entrée en vigueur d'une exonération fiscale sur certaines donations liées au mariage et à la naissance. Depuis 2024, les donations effectuées par les ascendants directs peuvent être exonérées de droits jusqu'à 100 millions de won.
Et pour terminer ce journal, la Corée du Sud réforme ses critères de don du sang pour la première fois depuis 10 ans.
Le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être a finalisé hier son deuxième plan de base pour la gestion du sang, avec pour objectif d'assouplir certaines restrictions et de moderniser le système de gestion des réserves sanguines. Les autorités souhaitent notamment augmenter le nombre de nouveaux donneurs ainsi que celui des donneurs réguliers grâce à des campagnes de sensibilisation adaptées aux différentes générations et aux évolutions socioculturelles.
Le gouvernement prévoit également de renforcer les avantages accordés aux donneurs.
Des événements et des cadeaux correspondant davantage aux préférences des donneurs seront proposés. Par ailleurs, des bus de collecte seront déployés plus régulièrement dans les régions ne disposant pas de centres de don du sang. Le ministère envisage aussi de relever la limite d'âge actuellement fixée à 69 ans.
Malgré un taux de dons relativement élevé, Séoul s'inquiète du vieillissement de la population.
Le taux de don du sang atteignait 5,6% en Corée du Sud l'an dernier, un niveau supérieur à celui observé dans des pays comme le Japon ou la France. Mais avec l'augmentation du nombre de patients âgés nécessitant des transfusions, le gouvernement considère désormais la stabilité de l'approvisionnement en produits sanguins comme une priorité majeure.
Merci d'avoir suivi ce journal. Plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, Séoul au jour le jour avec Elodie Stanislas. Bonne journée sur KBS World Radio.